c'est vous qui le dites.
Aujourd'hui sur Radio U, nous prenons la direction du pays Bigoudin pour parler d'un festival qui s'est imposé en quelques années comme l'un des rendez-vous rock les plus singuliers de Bretagne, c'est God Save the Queen. C'est parti pour une 7e édition du festival, 3 jours de concert du 12 au 14 juin à Pinmar, une programmation internationale et plus de 4 milliers de festivaliers attendus sur le site. Pour nous présenter cette nouvelle édition, nous recevons aujourd'hui Johan Madec, créateur du festival. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu sur Radio U, d'être avec nous pour commencer. On va remonter un peu le temps, on va remonter de 7 éditions le festival. Comment est né God Save the Queen et quelle était l'idée au départ en fait, de ce festival avec ce nom un peu marrant?
Alors God Save the Queen est né de l'idée de pouvoir faire venir des groupes qu'on ne pouvait pas faire venir à la salle Cap Cabal de Pinmar, car je suis également le programmateur de cette salle municipale. Et j'étais fréquemment frustré de ne pas pouvoir faire venir des groupes internationaux et surtout faire franchir la manche de beaucoup de groupes anglais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour du rock dans le Royaume-Uni. De ce fait-là, l'idée était de créer une association et puis rapidement, on a une trésorerie suffisante pour lancer en 2018 la première édition.
Alors, en quelques années, le festival a quand même trouvé son public. Là, on parle de presque 4 milliers de festivaliers attendus.
Oui, 4500 personnes par jour.
Donc voilà, c'est quand même un beau public. Comment tu définis aujourd'hui l'identité du festival God Save the Queen dans le paysage des festivals bretons?
Eh ben, t'as parlé de singularité. Eh ben, c'est réellement le créneau qu'on a choisi. C'est-à-dire que on est une super équipe et en fait, on a voulu dans ce projet-là accueillir des groupes qu'on ne voit pas partout, parce que justement, on a écumé pas mal de festivals et on s'est dit retrouver les mêmes têtes d'affiche dans toute la France, ça nous intéresse pas spécialement. On allait vraiment à la découverte et on a une bonne culture musicale. Du coup, l'idée c'était de faire venir des groupes qui remplissent des salles à l'étranger, mais qui sont très peu connus en France. Donc, on est parti de ce principe-là. Et puis de fil en aiguille, c'est clair qu'on a commencé petit avec une première édition, avec une seule scène, un seul jour. Et puis très rapidement, l'idée était déjà là de passer sur 3 jours de scène. Voilà, il y a d'autres évolutions qui vont arriver, on l'espère, dans les prochaines années. Mais le format, il bougera pas, il restera autour de 5000 personnes. La ligne artistique ne bougera pas non plus. On va pas aller chercher des groupes mainstream parce que, non pas qu'on n'a pas les moyens, mais c'est parce qu'il y a des festivals mitoyens à côté qui le font très très bien et il n'y a pas de raison d'aller sur leur créneau. Donc voilà, nous on est très contents. Et puis au-delà des 3 jours de festival, on a aussi une programmation annuelle. On intervient, on fait des actions culturelles autour du cinéma, autour des arts visuels, autour d'une programmation aussi via la salle Cap Cabal. Donc voilà, le projet, c'est un vrai projet de territoire et totalement désintéressé parce qu'on est tous bénévoles.
Pour ce qui est de l'esthétique, on est clairement sur du rock, rock garage un peu, du punk.
Alors, toutes les influences du rock en fait. Le rock, c'est pour nous le rock. En tout cas, pour moi, le rock est une façon d'être. C'est pas une musique dédiée. Donc, en effet, nous, on a sur les 24 groupes, on a du indie rock, du classic rock, du punk rock, de l'électro rock, du garage rock,
du glam rock, aussi.
Du glam rock. Voilà. Donc, c'est toutes les influences et on a en plus de ça des ovnis. Parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a des groupes qui émergent aujourd'hui notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, tels que Shulk ou Marouja, que peu de monde ont déjà vu en concert en France et qui clôturent les journées du samedi et du vendredi et du samedi. Et je pense que il y a des personnes, ça va interloquer, ils vont dire, bah attends, c'est pas du rock. Mais justement, si c'est du rock, aujourd'hui le rock, il est différent, il est mouvant et il est accessible à tous en fait, quoi.
Et c'est marrant, je pense qu'on en parlera un petit peu quand on parlera de la programmation, mais de plus en plus aujourd'hui, beaucoup d'artistes se disent hors case. On a du mal à mettre des artistes dans des cases, rap, rock, tout ça se déconstruit petit à petit. C'est aussi le cas dans le rock, où avant quand on du rock autre, on disait rock alternatif, mais en fait maintenant tout est alternatif.
Ouais, et puis comme on disait tout à l'heure, il y a une évolution aujourd'hui de la musique où les groupes, en tout cas les jeunes groupes ou les groupes émergents, ils s'imprègnent de toute leur culture. Ils ne sont pas coincés alors sur un style de musique. Alors globalement, ça existe toujours, notamment Jailer qu'on a programmé au dernier moment suite à l'annulation de la tournée de Frank Turner, qui est vraiment un groupe de 19-20 ans qui s'imprègne des classiques rock, Led Zeppelin, The Who. Et voilà, donc ça c'est des groupes qui sont vraiment dans cette catégorie-là et qui se plaisent à être dans une classique rock, mais d'autres groupes qui s'imprègnent de l'ensemble des influences, que ce soit de la musique urbaine, que ce soit du jazz, que ce soit du trip-hop, que ce soit du rap, et en fait qui font un amalgame. Et aujourd'hui le rock c'est ça, aujourd'hui le rock c'est comment on est, qu'est-ce qu'on veut dénoncer, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut emporter le public avec nous, et c'est ça qu'on a envie de transmettre aussi, et c'est ça qu'on a envie de faire découvrir.
Alors cette année c'est une étape importante hein, puisque pour la première fois il y aura 3 jours de concerts au festival. Pourquoi avoir franchi ce cap en fait cette année en 2026?
Parce que l'année dernière en fait on avait donc programmé 2 jours. Et au mois de février, on a été contacté par le manager de Manu Chao, qu'on avait déjà accueilli à la salle Cap Cabal à Pamar, et avec lequel on avait passé 4 super journées. Manu Chao m'avait dit « Écoute, Johan, je viendrai à ton festival, je ne peux pas dire quand, parce que je ne sais pas dans 2 semaines ce que je vais faire, mais je te promets de venir au festival. » Et donc en février, coup de téléphone, on peut venir, Manu peut venir, il est libre, il veut venir à Pamar. De ce fait, on a rajouté le dimanche l'année dernière. Donc dimanche rempli en 2 minutes, hein, bien entendu. Et quand on a fait nos comptes, parce qu'il y a une réalité pécuniaire quand même derrière un projet comme celui-là, hein, dont le budget est autour de 650 000 euros. Quand on a fait les comptes, on s'est rendu compte que le 3e jour nous permettait d'amortir toutes les locations qu'on pouvait avoir les 2 premiers jours notamment. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a beaucoup d'envie. On a envie de faire découvrir beaucoup de choses et de programmer beaucoup de choses. Donc on s'est dit, on ne va pas se limiter à 2 jours, on rajoute un 3e jour. Et c'est ce qui se passe cette année. On voit que, et on en fera les conclusions, on en tirera les conséquences en tout cas, que autant le vendredi et le samedi, ils vont être complets parce que la billetterie marche super bien. Mais que le dimanche, c'est un peu plus faiblard malgré une programmation qui, à mon sens, est encore meilleure que les 2 autres jours. Mais c'est aussi parce que les gens travaillent le lundi, ils ont peur que ça termine trop tard, même si White Lies termine à 11h20. Après le film du dimanche soir, c'est pas plus tard. Hein. Donc voilà, peut-être trouver un groupe un peu plus populaire, en tout cas qui parle plus à plus de monde, en tout cas le dimanche, pour que notre jauge soit plus facilement complète. Quoi.
Alors justement, on va en parler de la programmation, c'est ce qui est le plus important. Là, il y a des belles affiches quand même qui remplissent ces 3 jours de concert. C'est quoi les critères qui guident vos choix pour justement constituer cette programmation sur une édition comme celle-ci? Il y a une vraie mise en valeur aussi des artistes rock émergents?
Oui, alors moi quand je construis la programmation avec mon collègue Bertrand Roudot, qui est disquaire à la FNAC, ancien disquaire indépendant à Pont-l'Abbé, City Rock pour ceux qui se rappellent. Je ne sais pas si les jeunes de l'université se rappellent de, je ne pense pas, mais bon. En fait, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on s'attache à faire, c'est de construire une histoire. C'est-à-dire que quand on fait une programmation, c'est pas un melting pot de groupes qu'on a envie de coller sur une affiche en disant « voilà, on les a eus, c'est trop bien ». Non. Non, on raconte une histoire et ça va crescendo au fur et à mesure de la journée. Et c'est ça qu'on veut arriver à faire. Et c'est pour ça qu'on écoute énormément de choses. On sait ce qu'on peut passer. On sait que le type de groupe qu'on veut passer, à quel moment on veut le passer. Par exemple, tous les jours sous le chapiteau, donc la scène principale, c'est un groupe de soul qui ouvre, un soul blues en fait, pour lancer la journée. On sait que les groupes qui vont terminer sur la petite scène, la scène 2, c'est des groupes qui vont vous faire bouger, vous faire transpirer. Voilà, donc c'est un peu tout ça en fait qu'on essaye de construire. Et il y a tellement de nouveautés aujourd'hui dans la musique, il y a tellement de groupes qui galèrent, parce qu'aujourd'hui on a... Malheureusement, on n'entend que ce que la radio veut passer et beaucoup de personnes ne font pas la démarche d'aller découvrir des choses sur d'autres radios qui font de belles choses, ou sur du streaming forcément. Donc voilà, c'est ça qu'on a envie de faire, et il y a pléthore de groupes. Il y a vraiment pléthore de groupes. Après, voilà, faut les convaincre, faut voir avec les prods, c'est très compliqué hein, de les faire venir à Pamar. Mais c'est vraiment ça l'objectif, c'est construire vraiment un scénario, construire une histoire autour des 3 jours du festival.
Alors, il y a quelques groupes qui ont retenu mon attention. Alors, c'est vraiment complètement arbitraire, mais on peut parler de The Darkness, par exemple. C'est un groupe de glam rock britannique des années 2000. Ça représente quoi, leur venue à Pinmar pour ce festival, et pourquoi il fallait absolument les faire venir donc, ça sera vendredi à 17h.
Bah justement, parce que le premier critère, c'est que ça passe très peu. Je pense que c'est très rarement passé en Bretagne. Deuxièmement, c'est parce qu'il nous faut toujours quand même une tête d'affiche, parce que le public, même si on a beaucoup de jeunes, parce que c'est gratuit au moins de 16 ans, parce que notre public, c'est quand même majoritairement du 35-55 ans. Public cible, c'est vraiment ça. Donc, c'est forcément un groupe qui va leur parler. Donc, notre base, entre guillemets, notre base fan, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir voilà, un groupe headliner sur une journée. Darkness, aujourd'hui, ils passent dans tous les gros festivals rock d'Europe et même du monde. Et ils sont en tête d'affiche parce que dans les années, comme tu l'as dit, des années 2000, c'était l'un des meilleurs groupes de rock au monde. Donc, voilà, pour nous, c'est une caution aussi. Voilà, ils sont capables de faire venir ce groupe-là. Bon, forcément, ça a un coût. Forcément, ça, il y a des accompagnements à leur faire. Mais voilà, il nous faut quand même, voilà, une tête d'affiche pour qui parle à notre public.
Et un autre chouette nom hein, dans cette liste, c'est White Lies, qui est un groupe qui a marqué une génération avec un son de rock, post-punk et new wave. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce groupe-là et qui te fait dire « Ah oui, ça, on le met dans la programmation. » Donc ça, par exemple, ça sera dimanche à 16h.
Parce que White Lies, c'est un groupe qui est totalement sous-coté en France. Parce que c'est vrai qu'ils ont eu, ils ont fait 2-3 albums qui ont cartonné en Europe et au monde, et qu'après, bon voilà, les albums sont un peu passés sous les radars, parce que voilà, c'est la vie, et parce que leur style plaisait peut-être moins à une certaine époque, enfin actuellement, mais globalement leurs concerts c'est juste des super shows. J'ai envie de vous dire tout pendant leur 20 ou leur 10 qu'ils vont jouer, pardon, c'est 1h10 de tube. C'est-à-dire qu'ils emportent tout avec eux. Ceux qui ont un peu de temps, mettez White Lies sur votre plateforme de streaming ou à la radio.
C'est exactement ce que j'ai fait.
Voilà, ça s'écoute. On ne peut pas aimer White Lies et ça plaît à tout le monde. Et ça passe très peu en France. Parce que le public français aujourd'hui va pas vers ces groupes des années 2000 et de rock indie justement quoi.
C'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que moi je connaissais de nom ce groupe et en fait en réécoutant un petit peu leurs titres, je me suis rendu compte que j'en connaissais plein mais juste que je les écoutais pas assez régulièrement. Donc justement, je te propose qu'on écoute Toulouse My Life. Donc c'est un titre qui est présent sur l'album du même nom. C'est un peu l'album qui les a fait connaître en 2009.
Let's go!
C'était Toulouse My Life de White Lies sur Radio U. Je suis toujours avec Yoann Madec pour parler de la 7e édition de God Save the Queen. Tiens d'ailleurs, est-ce que les...
Queen.
Donc il y a vraiment le... Il faut jouer.
Queen, oui.
Voilà. Est-ce que les groupes, justement, ils comprennent un peu le jeu de mots quand même?
Alors... C'est...
Ils doivent pas comprendre, en fait.
Non, mais en fait, alors déjà, je vais expliquer ce que c'est la Queen, parce que c'est pas le Queen Amman de Dordogne.
Je pensais que c'était Queen Amman.
Ouais, non, non, en fait, la Queen, c'est une spécialité bigoudaine. Donc c'est une petite, petite galette sucrée. En fait, donc c'est un dessert globalement. C'est pas le Queen Amand qui est bien trop sucré et bien trop de beurre de nos amis de Dordognistes. Alors oui, certains interpellent, notamment Shulk, qui est un groupe de Belfast, a demandé des garanties comme quoi il y aurait pas pendant le festival des drapeaux de l'Union Jack, parce qu'ils pensaient que c'était en lien avec God Save the King, en fait. Donc, il a fallu leur expliquer que non, c'est un jeu de mots. vous inquiétez pas, on n'est pas pro-monarchie anglaise.
Voilà, c'est pas un festival royaliste.
Exactement. Et donc, voilà, oui, donc c'est rigolo. Et on essaye justement de leur faire goûter cette succulente spécialité bigoudaine qu'est la Queen, parce qu'on a des stands Queen qui sont tenus par des associations, justement. Et voilà, donc c'est le jeu de mots. En fait, le jeu de mots, il vient, on l'avait fait avec un copain. On était parti pour l'idée de faire un festival. Et il me dit God Save the Queen. Et le Queen en breton, c'est le vin. Mm. Je dis, ben non, on va le faire à Pamar. Donc ce sera God Save the Queen. Et du coup, on avait trouvé le nom. On savait qu'il fallait faire un festival. Et c'est parti comme ça.
Alors, on va continuer d'explorer un peu la programmation où il y a d'autres groupes qu'on n'a pas forcément cités. Est-ce qu'il y a des artistes ou des découvertes que tu aimerais recommander aux festivaliers qui peut-être nous écoutent et se disent « Tiens, quel concert je vais aller voir ?»
Bah, déjà, ne ratez aucun concert, mais profitez-en quand même pour vous désaltérer, hein, parce que c'est un peu l'économie du festival. Là, il y a un groupe... Alors, mon coprogrammateur m'en voudrait si je ne parlais pas de Francis of Delirium, qui vient de sortir un super album. Donc ça sera le vendredi, deuxième slot sur la scène 2. Mais moi, je vais quand même parler de The Molotov, qui passe en le dernier slot sur la scène 2 le vendredi, parce que c'est un groupe qu'on écoute depuis 2 ans et qui est en train de réellement cartonner. Ils viennent de faire Quotidien en live et Taratata. C'est une fratrie, en fait. C'est frères et sœurs qui ont fait plus de 600 concerts dans la rue avant d'être opérés par des majors et avoir un peu de soutien pour faire des premières parties. Et aujourd'hui, c'est un groupe de scène. Ils sont 3. Alors, ils sont accompagnés d'un batteur. Mais le duo qui a 17 et 18 ans, c'est vraiment à ne pas rater. C'est frères et sœurs. Et ils ont vraiment, c'est vraiment typiquement des Anglais dans leur attitude, dans leur façon d'être.
Très nonchalants. Ils sont très nonchalants.
Ouais, et puis, nous, on est très contents parce que c'était un pari. Et là, globalement, on l'a pas eu cher. Mais je sais qu'aujourd'hui, les festivals qui vont les avoir l'année prochaine, ça sera 10 fois plus cher. Quoi.
Et puis, il y a un nom aussi que tu as cité, c'est Marouja.
Oui.
C'est aussi un groupe, je pense qu'on peut en parler, qui est assez chouette.
Alors, Marouja, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un ovni dans la musique aujourd'hui. Donc, c'est un groupe qui vient de Manchester. C'est vraiment un groupe qu'il faut voir en live. Le frontman, il est juste incroyable. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de saxophones qui se greffent justement sur les groupes de rock, Fat Doc notamment. Mais Marouja, c'est une expérience unique à voir en concert. Donc, il termine sur la scène 1 le vendredi. Ouais. Faut absolument regarder. Si vous ne pouvez pas venir au festival, je vous en prie, écoutez ce groupe-là. Vous avez du free jazz, vous avez du Rage Against the Machine, vous avez du rap. Mais c'est surtout sur scène que ce groupe-là se dévoile et embarque tout le monde avec lui.
Alors ça arrive, il y a aussi une annulation, celle de Frank Turner. Alors, comment vous avez appris cette nouvelle et comment on gère ce type d'imprévu quand on organise un événement
Alors moi, je pars du principe que quand tout va bien, tout va mal dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que je m'attends toujours à la catastrophe. L'année dernière, en me réveillant le vendredi matin, à 6h du matin, quand j'ouvre mes mails, j'ai reçu un mail à 5h30 m'annonçant que la tête d'affiche du vendredi ne pouvait pas venir parce que l'avion était annulé, DID à l'époque, à cause du crash d'Air India, ils ont stoppé les vols internationaux. Donc ça, je l'ai appris, donc il a fallu trouver un groupe en 4 heures. Là, on a appris la nouvelle il y a un mois, que Frank Turner a annulé toute sa tournée française, donc on était particulièrement déçu parce que c'est vraiment un artiste très populaire et qui peut embarquer beaucoup de monde avec lui dans un rock celtique très rassembleur. Et donc là, on a eu un mois pour trouver un artiste en headliner pour remplacer Frank Turner, sauf qu'aujourd'hui, avec les routings, les artistes qui sont déjà pris dans les festivals, parce qu'il y a une grosse concurrence, notamment sur des festivals du côté de l'Allemagne, de la Hollande, pas trop en France sur le rock, mais vraiment dans tout ce qui est l'Est de la France. C'est très compliqué de faire des offres comparables à ces pays-là, en fait. Donc, il a fallu faire un énorme brainstorming. J'ai laissé beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais on a réussi à trouver, après avec quelques refus. Et puis surtout, en fait, certaines boîtes de prod profitaient du fait qu'on soit au pied du mur, en tout cas, qu'on ait le couteau sous la gorge pour gonfler certaines offres. Ce que je voulais pas non plus, je voulais pas accepter. Et on est tombé, en fait, là, en écoutant, en regardant un peu l'actualité, il y a Jailer, un petit groupe anglais qui coche toutes les cases, c'est-à-dire nouvel album, jamais passé en France, grosse presse en Angleterre, gros soutien d'artistes en plus, reconnu. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer, et puis on a réussi à les faire venir, on est content parce que ce sera leur première date en France, et je pense qu'on en entendra parler.
Alors, au-delà des concerts, qu'est-ce que les festivaliers vont aussi retrouver sur place? Il y aura des animations, des moments de convivialité qui font aussi l'esprit du festival?
Pas vraiment. Non. Nous, on appuie notre convivialité sur la qualité de la musicale. Par contre, on essaye, en tout cas, on tend à être un festival les plus vertueux possible. Sur les efforts sur la prévention, sur l'environnement, sur les déplacements doux. Là, cette année, par exemple, sur l'environnement, on a décidé de passer sur des contenants consignés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas aller acheter ta barquette de frites, ton burger ou n'importe quel plat dans les food trucks du festival, parce qu'il y en aura 7 ou 8. Tu auras un contenant consigné que tu vas ramener parce qu'on ne veut plus d'avoir de déchets. Alors même si le festival était très propre, mais 80% des déchets que nous recyclions, en fait, c'était des contenants. Donc on a décidé de passer sur des contenants consignés. Sur la prévention, alors on a un gros stand de prévention, je pense qu'il est plus grand que celui de Hellfest, alors que Hellfest a 60 000 personnes, parce qu'on est on a une attention particulière sur tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, parce qu'on a une attention particulière aussi pour les personnes en état d'ébriété trop avancé. Voilà, on a un vrai stand qui est tenu par des médecins et des infirmiers et infirmières. Et ensuite, sur les déplacements doux, en fait, l'année dernière, il y a eu un accident en marge du festival, c'est-à-dire qu'il y a un gamin qui sortait d'un bar et pas du tout du festival et qui a fauché une personne qui rentrait à pied du festival. De ce fait, on a mis l'accent en priorité sur la sécurité des retours du festival. C'est-à-dire que, déjà, la ville va allumer tout l'éclairage public de la ville pendant les 3 jours. Et deux, on a mis en place des navettes et des circuits piétonniers. C'est-à-dire qu'on a des navettes gratuites pour rentrer notamment sur les campings du sud de Pamar. Il y a 3 gros campings, donc du coup voilà, les festivaliers, ils ont une grosse navette de 55 places. Tous les 20 minutes, le parcours est fait. Donc voilà, pour entrer en toute sécurité vers les campings, il y a des navettes. Donc voilà, on essaye de mettre l'accent sur tout ça pour que ça reste une fête et que chacun profite sans excès, en tout cas, pendant ces 3 jours.
Tu en as parlé tout à l'heure des bénévoles. Ça a pris en taille, hein, forcément. Maintenant, il y a 3 jours de concert. Donc, il y a combien de bénévoles, combien de personnes qui vont vivre, en fait, le festival?
Là, cette année, on a 378 bénévoles, dont 260 qui font les 3 jours. Alors, on a la particularité, là encore, de ne pas faire appel à des bénévoles. C'est-à-dire que depuis le début, On est commencé à 60, après 100, 150, 200, 300 l'année dernière. On est à 380 quasiment cette année. On fait jamais d'appel à bénévoles parce que déjà notre base bénévole revient à 95%. Mmh. Ils reviennent chaque année. Et ensuite, on coopte, on leur demande de coopter des personnes plutôt que faire appel à des bénévoles, à des, faire une communication sur les réseaux, sur notre site internet ou dans la presse. Du coup, non, en fait, on travaille avec pas loin de 400 bénévoles sur les 3 jours et ça se passe très bien. De toute façon, sans eux, on ne ferait rien. Comme on a fait la réunion lundi dernier, et c'est vraiment le message qu'on a voulu faire passer.
Alors, on parle beaucoup de la multitude d'offres en termes de festivals en Bretagne. Parfois, on parle même de concurrence, même si évidemment, chaque festival a son esthétique, son identité et puis sa taille aussi. Hein. Parfois, c'est pas du tout comparable. Et comment ça se passe pour garder quand même le cap, même financièrement? Comment ça se passe?
Alors, t'as totalement raison. Moi, j'ai une théorie aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un événement qui ne s'appelle pas festival.
Ouais.
Je dis qu'il y a une festivalisation des événements. C'est surprenant. C'est tant mieux pour la richesse culturelle du pays. Mais attention, on ne peut pas créer des festivals ex nihilo sans avoir une véritable ligne artistique et savoir exactement quel est le projet qu'on veut défendre. Et aujourd'hui, pour avoir une veille sur tout ce qui se passe, en tout cas sur les événements musicaux, en France hein, notamment, notamment sur les dernières parutions du Centre National de la Musique, pour participer au MAMA Festival où ils ont pris la parole, on se rend compte que 36% des festivals sont déficitaires. Même des fois, quand ils sont complets, ils sont quand même déficitaires. Que la concurrence amène à des offres de plus en plus importantes pour les artistes qui forcément ne vont pas refuser des offres plus conséquentes. Et je pense sincèrement que vous n'avez pas un véritable projet culturel à défendre avec une véritable ligne artistique, on peut très vite se noyer et perdre le fil de l'histoire et par forme de cercle vicieux et parce qu'on a envie de grandir parce qu'il y a voilà on a envie du on va vers du gigantisme des fois on sait, je sais pas jusqu'à où on va s'arrêter. On est sur aujourd'hui des festivals qui font 70 000 personnes. Aujourd'hui, les festivals qui font 10, 20, 40, on a toujours envie de grandir et c'est ça qu'il faut faire attention. Et nous, notre projet, il est vraiment d'aller à l'envers de tout ça, de rester sur une jauge, alors, ça ne veut rien dire à taille humaine, mais sur une jauge maximale. Et voilà, de faire attention à nos deniers parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus compter sur des subventions publiques et j'ai envie de dire que c'est tant mieux parce qu'il y a des projets qui méritent d'être accompagnés parce qu'il y a une véritable démarche derrière. D'autres, je vois pas en quoi ils devraient être sur perfusion publique parce que ce qu'ils proposent, c'est rien de nouveau. Donc voilà, il faut retrouver un équilibre dans tout ça et c'est clair que c'est pas simple de se situer, mais je reste persuadé que nous, avec une ligne artistique qui est bien singulière et en étant aussi dans une gestion désintéressée, c'est-à-dire que les 400 personnes qui travaillent avec nous qui sont bénévoles au festival, et les 30 personnes de notre comité d'administration, on est tous bénévoles, on est totalement désintéressés. Et je pense que ça, c'est une force.
Et donc, on fera le bilan après cette 7e édition pour savoir s'il y en aura une 8e.
Ah bah, il y en aura une 8e. Je peux déjà te confirmer, vu la billetterie. Et il y a autre chose aussi. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire un événement si on n'est pas accompagné, hein, bien sûr, par une structure publique. Donc aujourd'hui, c'est la commune de Pamart qui nous accompagne en logistique. Même si on ne demande pas de subvention et même si en plus on leur reverse une partie des recettes de billetterie, ce qui est rare. Donc il nous faut le tiers collectivité, il faut le tiers associatif, bien entendu, et puis il faut surtout le tiers partenariat privé.
C'est ça qui est important.
Bah, disons que si tu n'as pas ces trois-là, ton projet, il peut vite péricliter.
Alors, toutes les infos sur le site God Save de Cougne et les réseaux sociaux aussi. Bon courage pour cette édition,
merci.
Cette 7e édition, ces 3 jours de concert. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio U. Je rappelle donc le festival, c'est du 12 au 14 juin 2026 à Pinmar et il y a plein de rockeurs et de rockeuses dans diverses esthétiques à l'affiche.
Faut venir voir
et il faut écouter les groupes.
Exactement.
Merci beaucoup et merci puis bon toi. Festival à toute l'équipe.
Merci beaucoup.
C'est vous, Juliette. L'émission d'info locale.